Chapitre 9. Le marchef chasse de nuit. En quittant le conseil des habits noirs, Coatier, dit le marchef, descendit l'escalier d'un pas incertain. Il n'allait pas de bon cœur à la besogne qu'on lui avait commandée. C'était un rude scélérat, habitué au sang, et qui même avait donné plus d'une fois des preuves de cruauté inutile. Ses complices le redoutaient, mais ce n'était pas un scélérat de naissance. Coatier, comme son sobriquet de marchef l'indique, avait appartenu à l'armée. Tout le commencement de sa carrière avait été excellent, presque brillant. Après deux campagnes, où il s'était fait remarquer 20 fois par son intelligence et sa bravoure poussée jusqu'à la témérité, il avait atteint le grade de maréchal des logis-chefs, ou de marchef, comme le dit l'abréviation troupière, et déjà il était désigné pour l'épaulette lorsqu'il devint amoureux d'une de ces folles et nuisibles créatures qui, sans être méchantes elles-mêmes, damnent les hommes et peuvent passer pour les plus puissantes machines propres à labourer le champ du mal. Nous les voyons toutes passer dans la vie en souriant. Elles sont gaies, elles sont drôles, pour employer le mot technique. Elles nous amusent. Nous ne leur donnons pas, à vrai dire, quand elles ne s'imposent pas à nous personnellement, beaucoup plus d'importance qu'à la levrette ou au bouvreuil, et c'est justice, car elles n'ont ni cervelle, ni cœur, ni rien. Mais si la statistique du crime était un jour établie au point de vue de ces joyeux petits animaux, la civilisation s'ébahirait, effrayée. C'est monstrueux. Moi, j'ai regardé cela par passe-temps, n'étant pas un philosophe, et j'ai vu, avec une certaine épouvante, que les 5/6 des abus de confiance, dans le commerce surtout, et dans l'administration, 2/3 des désastres de la bourse et une honnête moitié des meurtres, étaient dus à ces innocentes demoiselles. On n'y peut rien, elles ont le droit de vivre comme vous et moi. À part leur voix un peu criarde, leur parlage appris par cœur au méchant théâtre, leurs chignons effrontés et leur redoutable appétit, ce sont vraiment d'assez jolies petites bêtes. Seulement, en conscience, elles ne valent pas la 1/1000ème partie du bien qu'elles gaspillent, honneur, argent, bonheur. Et si jamais le progrès des civilisations permettait d'appliquer à leurs gueulettes roses une muselière compatible avec la liberté individuelle, ce serait un bienfait public. La petite bête du maréchal des logis Coatier avait d'abord mis quelque embarras dans sa comptabilité. C'était la moindre des choses. Cela retarda l'épaulette, et l'épaulette est parfois le salut. Il faut le voir pour croire à quel point l'épaulette transforme un homme. L'épaulette ne venant pas, Coatier épousa sa petite bête. Il était horriblement jaloux. Elle se moqua de lui, il lui fracassa le crâne d'un coup de crosse de pistolet. Le reste n'a pas besoin d'être raconté. Coatier, de chute en chute, était tombé aussi bas qu'on puisse tomber. Il lui restait seulement une certaine bravoure brutale et le sang-froid en face du danger, chose rare parmi ses pareils, quoi qu'on dise. Quand il eut descendu, marche à marche, l'escalier du conseil, il s'arrêta devant la porte du premier étage et resta un instant indécis. « J'ai quelque chose sur l'estomac, se dit-il, quoique je n'ai pas encore dîné. Ça me trotte dans la tête qu'il va m'arriver malheur. C'est bête, mais voilà, je crois à ça. » Il tâta la serrure de son outil, mais il n'ouvrit point. « Voilà, répéta-t-il, l'autre était un beau gars, il est tombé sans seulement dire « ouf », le coup était crânement envoyé, mais il ne m'avait rien fait, et ça vous pèse jusqu'au lendemain matin. Tous ceux de la sûreté doivent être aussi sur mes talons, c'est sûr, et ceux de Monsieur Vidocq aussi. Allez courir la nuit avec un paquet de petites filles sous le bras, c'est tenter le diable. » Sa main lâcha la serrure et il pensa « ce serait de prendre le pont neuf au pas de gymnastique et d'aller voir à Montrouge si j'y suis. » Il fit un pas vers l'escalier. Il n'en fit qu'un. « Ces gens-là, gronda-t-il entre ses dents serrées, vous tiennent par le cou, ils ont une bonne poigne. Si je les laissais dans l'embarras, j'aurais beau me terrer comme un lapin, ils me trouveraient, j'aurais mon compte. » Son outil fit jouer le pêne sans bruit. L'habitude était une seconde nature. À son insu, Coatier prenait des précautions voulues, comme s'il eût été de sang-froid. Il referma la porte. La lueur des deux lampes qui éclairaient la chambre où dormait l'enfant lui montra le chemin. Crébleu, dit-il en traversant la première pièce, tu ne fais pourtant pas froid, et j'ai des frissons dans le dos. Je n'ai pas peur, au moins. Jamais peur, le marchef. Mais je ne sais pas comment ça s'y prend, les maladies, pour entrer dans le corps. Je suis peut-être malade. Au lieu d'aller droit à la chambre éclairée, il tâta les lambris pour trouver une armoire. Ils ont l'instinct de ces choses. Au bout de 3 secondes, il tournait un bouton et ouvrait un placard. « Des robes !» gronda-t-il avec une soudaine colère. « De la mousseline, de la soie, de la femme, quoi ! Ah, la femme, la vipère de femme !» Il referma le battant avec violence et ajouta « Sans ça, je serais un lieutenant, peut-être un capitaine. Et gros major Coyatier, avec 36 médailles et la croix d'honneur, oui, car je sauvais les gens autrefois, au lieu de les tuer. » Il essaya de rire, mais sa grosse main fut obligée d'essuyer ses yeux qui le brûlaient. « Bon, fit-il, est-ce qu'il y a de l'échalote ici ? Je pleure. C'est ça, je suis malade. Crébleu, le gars à la valise ne m'avait rien fait. Il avait l'air bon enfant. Écraser la tête d'une femme d'un coup de poing, à la bonne heure, ça ravigote. Ce n'est pas un péché de tuer les couleuvres. » Il ouvrit un second placard, après avoir franchi une porte, et du premier coup, sa main rencontra de l'argenterie. « Ah !» s'écria-t-il joyeusement, « voilà mon affaire, c'est le buffet, on va trouver l'eau de vie !» Au lieu de commencer à mettre cuillères et fourchettes en lieu sûr, il continua de tâter. Il disait vrai, il était malade. Après 1 ou 2 minutes de recherche, sa main rencontra une cave à liqueur. Il mit le goulot d'un flacon dans sa bouche et lampa avec avidité. « Pouah » fit-il, « du doux, ça sent la femme !» Il essaya tour à tour les 3 autres flacons. « Toujours du doux. Ah, les coquines de femmes !» Sa voix exprimait en ce moment une terrible colère. « J'en étranglerai 1, 2, 3, » grommela-t-il. « Je les étranglerai toutes. Pas d'eau de vie dans la maison ? Tiens, ça sent le poulet. Si je mangeais un morceau pour me réchauffer le cœur. » Il ne se pressait point, il ne faudrait pas le taxer d'imprudence. Jamais en toute sa vie il n'avait été moins porté qu'aujourd'hui vers la témérité. Il réfléchissait en causant avec lui-même. Au dehors, il flairait la meute des agents de police. Dans cette maison, au contraire, où on avait fait le vide pour favoriser le crime, il était relativement en sûreté. Bien plus, la surveillance se lasse. Il faut qu'un inspecteur dorme comme un simple mortel. Chaque minute passée était bonne, parce qu'elle augmentait cette chance que les agents, fatigués d'attendre à l'affût, finiraient par regagner leur taudis. Le marchef prit le plat où était la volaille froide. Il tâtonna pour trouver une table et mit tranquillement son couvert. Il s'assit devant un souper qui, certes, devait lui paraître confortable. Il avait découvert une couple de bonnes bouteilles de vin. Et si vous l'eussiez interrogé, il vous aurait répondu qu'il allait manger comme un ogre, vu que son déjeuner était dans la semelle de ses bottes. Pourtant, à la première bouchée, son estomac se souleva, révolté. Il voulut boire, et le vin lui sembla amer. Une sorte d'épouvante le prit. « Je suis malade, » dit-il, en défilant une demi-douzaine de jurons. « Crébleu, j'ai pensé aux femmes. Je parie 1 franc, je parie 100 sous, qu'on va me coller l'épervier avant que j'aie tourné le coin de la barillerie. Les femmes, ça porte malheur. » Il mit sa tête entre ses mains, et vous l'eussiez entendu balbutier. « Était-elle assez jolie, la coquine? Était-il assez joli le jour où je fis sa faim ?» Ses doigts se crispaient dans ses cheveux, il eut comme un sanglot. Il se leva brusquement et alla vers la fenêtre. « Pleine lune, pensa-t-il, sur la grande route on irait gaiement, mais il y a Paris avant la grande route. » Une voix douce et plaintive s'éleva dans le silence. Elle disait « Isole, où es-tu? Notre père est-il venu? Isole, est-ce toi que j'entends ?» Une seule pièce séparait maintenant le bandit de la chambre éclairée. Il dressa l'oreille et attendit un second appel qui ne vint pas. « On dirait des anges du bon Dieu, pensa-t-il, et c'est le diable. » Il revint vers le buffet, secouant ses membres en chemin et cambra sa robuste taille. Il reprit un à un tous les flacons de la cave à liqueur et les vida pour sa santé, parce qu'il avait fait le raisonnement suivant, il y a toujours bien un peu de 3/6 au fond de tout cela. après quoi, par habitude, il mit dans sa poche l'argenterie. Mais il se l'avouait à lui-même, le cœur n'y était pas. « Faudra finir par la fin, je suppose, » dit-il en poussant un large soupir. « À quoi ça te sert de marchander, bonhomme? Ferme les yeux et vas-y. » La pièce voisine fut traversée d'un pas ferme, mais il s'arrêta encore au seuil de la dernière chambre. L'habit noir a dit « carte blanche », murmura-t-il. Il l'a dit en répondant à cette question. « Que faudrait-il faire de la petiote s'il survenait des embarras ?» Bien sûr qu'il n'aurait pas répondu ça si elle leur était bonne à quelque chose. Au contraire, pour leur manigance, ils ont besoin qu'on l'enterre. Eh bien, moi, j'aimerais mieux l'enterrer ici qu'ailleurs. C'est mon idée. » Il se gratta le front et chercha près de lui un siège, car ses jambes ne valaient rien ce soir. Il s'assit. Sortir d'ici avec un pareil colis, poursuivit-il, ça me met dans la position de quelqu'un qui dirait aux hirondelles « Faites-moi l'amitié de venir voir ce que je déménage à cette heure de la nuit. » Ça saute aux yeux. Tandis que si je file à la douce, rien dans les mains, rien dans les poches, eh bien, en cas de mauvaise rencontre, on peut travailler. Se dit Bibi, escadron, à gauche, en bataille, au trot. Il se mit sur ses pieds et entra. La petiote était condamnée. La chambre restait exactement telle que nous l'avons laissée. Une des lampes brillait sur la console, l'autre sur la cheminée. Suavita avait le dos tourné. On ne voyait que la forme grêle de son pauvre petit corps sous les plis légers de la couverture de soie et les belles masses de ses cheveux blonds qui baignaient toute la largeur du coussin où sa tête était appuyée. Le marchef ne jeta de ce côté qu'un regard distrait. Il chercha l'heure à la pendule. Ce faisant, ses yeux rencontrèrent son propre visage dans la glace. La lampe de la cheminée éclairait ses traits en plein. Il recula, comme si quelqu'un l'eût pris aux cheveux par derrière. Jamais il ne s'était vu pâle, et il était pâle comme un mort.
« Est-ce que c'est moi ça ? » grommela-t-il. « Crébleu, je suis bien malade.
»« Après, » fit-il, en se redressant de son haut, comme pour défier ce blême visage qui le provoquait. « On avale sa langue qu'une fois. Au galop !» Un mouvement brusque le porta jusqu'au lit, et ses deux mains se crispèrent tandis qu'il regardait l'enfant à la gorge. Certes, il n'avait pas besoin d'armes pour accomplir sa sinistre besogne. Suavita s'était retournée en dormant. Les rayons de la lampe glissaient sur les lignes un peu grêles mais délicieusement mignonnes de son profil perdu. Autour de ses lèvres pâlies, un vague sourire errait. Le marchef se mit à la contempler froidement.
« Ça deviendrait une femme, » murmura-t-il. « C'est de la graine de femme. »
Et pour lui, dans ces mots, il y avait un arrêt impitoyable. Il fit encore un pas. Ses deux mains se portèrent ensemble à son front, où la sueur ruisselait.
« Crébleu, gronda-t-il, j'ai vu noir comme un petit moment, ça m'a passé dans un nuage. J'ai vu rouge souvent, ah, souvent, mais ce brouillard... »
Il ajouta, réagissant contre l'angoisse inconnue qui le tenait,
« Jamais peur, coyatier, seul coup d'un poulet à tordre, quoi donc ?»
Ses deux mains se rapprochèrent de la gorge de l'enfant, lentement. Elle semblait énorme auprès de cette chère petite poitrine. Elle frémissait. Le sourire se dessina plus vivant sur les lèvres de Suavita qui s'entr'ouvrirent et laissèrent tomber ce mot. « Mon père !» Le marchef chancela et ses paupières battirent, mais il dit « Oui va, appelle papa, bouture de femelle !» Il ne voulait pas croire lui-même à quel point l'émotion le garrottait. Les 10 doigts de ses mains vibraient comme ceux d'une femmelette qui a une attaque de nerfs. Ses dents grincèrent et craquèrent. Il montra le poing à un invisible fantôme.
« Ah, la coquine, la coquine » fit-il d'un accent où il y avait des plaintes. « C'est encore elle qui va tuer cet ange-là. »
Ses mains se rapprochaient toujours. Elles tranchèrent bientôt, rugueuses et brunes, sur le cou blanc de Suavita. C'en était fait. Pour la première fois, l'assassin allait tuer avec horreur, mais il fallait tuer, c'était sa loi. Machinalement, avant de serrer l'écrou puissant de ses doigts autour de cette gorge si frêle, il retira sa main droite pour essuyer ses yeux aveuglés par la sueur. Sa main gauche toucha le cou de Suavita, dont les paupières paresseuses souffrirent à demi. D'instinct,
La main droite du bandit revint vivement à son devoir. Suavita leva ses deux petits bras faibles et les noua autour de la nuque du marchef stupéfait. Puis, pesant sur cet appui, elle parvint à soulever sa tête de façon à lui mettre au front un doux et charmant baiser. « Ah, mon père, dit-elle en même temps, je rêvais de toi, mon bien-aimé père. » L'assassin resta immobile sous cette caresse qui le navrait, mais réveillait au fond de lui des fibres paralysées. Il ne répondit pas. Il n'osait plus bouger, son cœur battait terriblement. « Tu ne dis rien, » fit Suavita souriante, « et tu ne m'embrasses point, es-tu fâché contre moi ?» Saurait-on dire pourquoi ? L'assassin arrondit ses lèvres qui effleurèrent la joue satinée de l'enfant. Elle lâcha prise, disant « Ah, comme ta barbe est rude, père !» Puis ses sens s'éveillant, elle l'eut doute. Ses narines délicates perçurent avec dégoût ces horribles effluves qui épandent à profusion le sordide séjour des prisons et des bouges, la misère, le vice, le crime. Elle ouvrit les yeux tout à fait. Elle vit cette tête énorme, crépue, hideuse, qui pendait sur elle comme un impur cauchemar. Une épouvante indicible la saisit. Elle poussa un cri rauque et retomba sur son lit, évanouie. Coyatier fut une longue minute avant de se retrouver. Sa première parole fut celle-ci. « Crébleu, c'est bête tout plein, mais je ne pourrais pas lui faire de mal à présent que je l'ai embrassé. » Il prit les deux petites mains de l'enfant et souffla dedans, essayant de maladroit secours. « Dis donc, poulette, » murmura-t-il, sans savoir qu'il parlait. « Dis donc, mon pauvre petit bichonneau. Hé, là-bas, ne va pas te laisser glisser. Je ne suis pas beau à voir, c'est bien sûr. Tu as eu peur, il y avait de quoi. Ah, crébleu, tout de même, ça a tenu à un fil d'araignée. Et dire que si j'avais eu une bonne femme au lieu de la coquine, imbécile, est-ce qu'il y en a des bonnes femmes ?» C'est égal, s'interrompit-il, car la réflexion venait. J'ai eu crânement tour de l'embrasser, et ça va me mettre des bâtons dans les roues. Eh, petit pigeon, va-t-on rouvrir ses beaux yeux? Ah, si on ne dirait pas que c'est mort. Eh, il n'y a pas à dire, c'est joli comme l'amour, quoique trop mièvre, et pas de couleur assez. Ma parole sacrée, ça m'a fait du bien à ma maladie, comme si j'avais sifflé un verre de dur. Il cessa tout à coup de taper dans les mains de la fillette et reprit d'un air soucieux. « Ce n'est pas le tout, il s'agit d'emporter la minette à présent. Ah, bonhomme, tu as l'idée que tu joues ta peau, à pair ou non. Pour cet oiseau-là, pas vrai. Ça y est, tu l'as embrassé, c'est ta faute, et tu essaies de la repiquer, c'est un tort. Ah, les pamoisons, ça n'a jamais gêné les femmes. Oh, on la ficelle comme elle l'est là, elle ne bouge pas, c'est déjà avantageux. Elle ne crie pas, c'est énorme. Et on l'emporte ni vu ni connu. Il n'y a que le poids. » Il la soupesa doucement. « Ma parole, acheva-t-il, ça ne vaut pas la peine d'en parler, c'est de la plume. » Avec des précautions infinies, il ramena les quatre coins de la couverture de soie et en fit un paquet. Cela ne le contenta point. L'enfant lui semblait avoir là-dedans une position pénible. Il dénoua la soie, roula la couverture et la ferma, en ayant soin de laisser passer un peu d'air à l'endroit de la bouche. « Escadron, à droite, en bataille !» se commanda-t-il à lui-même en prenant la fillette inanimée dans ses bras. « Au galop !» Et il partit. En passant devant la cheminée, la glace lui renvoya pour la seconde fois son image. Ce n'était pas le même homme. Il s'adressa à un bienveillant signe de tête et dit « Marchef, mon vieux, quand vous êtes entré ici, vous n'aviez pas figure humaine. Va bien, tenez-vous droit au petit bonheur. » Il prit la lampe à la main pour traverser les chambres qui le séparaient de l'entrée. Il avait crainte d'endommager son précieux fardeau. J'ai dit le mot « précieux ». Le marchef l'entendait ainsi, désormais. Sur la table de la salle à manger, il regarda d'un œil d'envie le poulet froid qu'il avait dédaigné naguère. Va bien, il eut mangé ce qui restait avec plaisir. Mais l'enfant pouvait reprendre connaissance, c'était désormais un danger sérieux. Coyatier voulait dépasser au moins les environs de la préfecture avant le réveil de la fillette. Il descendit l'escalier lestement après avoir laissé son outil dans la serrure comme cela lui avait été ordonné. La porte de la rue était grande ouverte. Il examina du mieux qu'il put la perspective du quai à droite et à gauche et prit sa course vers la rue de la Barillerie. C'était son chemin direct pour gagner ce cabaret suspect, l'estaminet de l'épicier, situé au bout du chemin des amoureux, dans les terrains vagues qui abondaient alors entre la rue d'Angoulême et le faubourg du Temple. Il eut d'abord espoir. Le quai, en apparence, était complètement désert, et comme Paris, en ce temps, économisait l'huile de ses réverbères les nuits de lune, il avait quelque raison de croire qu'il pourrait croiser au besoin un agent attardé et sans être reconnu. Il marchait au beau milieu de la voie, lentement et d'un pas solide pour ne point exciter les soupçons. Comme il longeait le mur des jardins de la préfecture, lequel, nous le savons, rejoignait la maison qu'il venait de quitter, au derrière de l'établissement Boivin, il entendit un léger bruit sur sa gauche et leva vivement la tête. Le faîte du mur, nivelé au cordeau d'un bout à l'autre, avait une sorte de rugosité à son centre. Cela semblait gros comme une tête d'enfant, ou comme un chat. Coyatier passa, mais son cœur commençait à battre. À peine avait-il fait 10 pas qu'il y eut un miaulement derrière lui. « Pistolet !» grommela le marchef. « Monsieur Badois n'est pas loin. Tonnerre !» Il voulut presser sa marche, mais une tête d'homme sortit de l'ombre au coin de la rue de Jérusalem. « Tiens, tiens !» dit Monsieur Badois, car c'était bien lui. « Voilà un commissionnaire qui travaille au clair de la lune. C'est suspect. Causons-nous deux, l'homme !» Il avança en même temps pour barrer le passage. Le marchef prit chasse du premier coup, et franchement, parce qu'il supposa que Badois et sa mouche, comme on appelait pistolet, étaient seuls. Il rebroussa chemin dans la direction du Pont-Neuf. Le chat n'était plus au haut du mur, mais il était en bas, car le marchef trébucha, pris aux jambes par 2 mains maigres qui travaillaient en conscience. Le marchef saisit la bête aux cheveux, et sans s'arrêter, il lança le pauvre pistolet à la volée contre le mur en disant « Toi, tu ne vendras plus de matou, grenouille !» La force du marchef était connue, il y avait de quoi écraser un bœuf. Le gamin s'aplatit littéralement contre le mur et ne bougea plus. Quand Badois passa l'instant d'après en courant, il se pencha pour le secourir. Le gamin lui dit tranquillement « « Laissez voir, patron, je fais le mort. Je suis tombé déjà 3 fois des gouttières sans m'endommager. Allez fermer, ouvrez l'œil, nous ne le tenons pas encore. » Le fugitif, cependant, détalait à toutes jambes. Mais quelque chose de son premier trouble le reprenait, et il disait « C'est drôle que j'en avais l'idée, ça va pas finir comme il faut. » Ces gens-là sont diminués de moitié dès qu'ils sont mordus par un pressentiment. En arrivant en la rue Harlay du Palais, Coyatier se tint prêt de s'y jeter, si rien de suspect ne frappait sa vue, et prêt aussi à suivre la ligne du quai en cas d'embuscade. La rue Harlay semblait solitaire, et cependant le bandit passa franc. Il fit bien. 2 ombres se détachèrent de la muraille dès qu'il eut disparu, et vinrent au pas de course rejoindre M. Badois. C'était Martineau et un autre habitué de l'ordinaire, Soulas. La convocation, faite par Badois, avait produit son effet. Toute la table d'hôte était là. Coyatier avait des yeux derrière la tête. Il vit le renfort qui arrivait à Badois et fut à l'instant fixé sur sa situation. Les mesures étaient prises en grand. Désormais, il en était sûr. Il allait rencontrer des affutiers à droite, à gauche, devant, derrière, partout où il porterait ses pas. Il mit sa main sous sa chemise et la tira armée d'un long couteau de boucher. C'était l'instrument qui lui avait servi à tuer Jean Labre au dernier étage de la tour. Sa main gauche continuait à maintenir la fillette contre sa poitrine. Il courait avec une rapidité extraordinaire. Son fardeau ne semblait pas lui peser plus qu'un fétu de paille. À hauteur du Pont-Neuf, un peu au-delà du centre et sur le même plan que la statue de Henri IV, 2 hommes étaient placés en évidence au beau milieu de la voie. Ils tenaient de forts gourdins en arrêt. Coyatier pensa c'est ici la fin de la souricière. Si je leur passais sur le ventre, j'aurais de l'air. » Son raisonnement était bien simple. Si ceux-là se montraient, c'est qu'on devait le forcer à tourner sur la droite, par le quai de l'Horloge, ou sur la gauche, le long du pont, vers le faubourg Saint-Germain. Mais l'audacieux bandit n'était plus complètement lui-même. Il hésita et se dit « C'est drôle, je n'aimerais pas faire attraper un mauvais goût à la petiote. » Son instinct le poussait vers le quai de l'Horloge, qui était sa vraie route, mais c'était affronter de nouveau les abords de la préfecture, et l'autre voie, 3 fois plus large, lui donnait espoir. Au bout du Pont-Neuf, d'ailleurs, il aurait à choisir entre trois directions, sans compter la petite rue de Nevers, et, en définitive, ce ne pouvait être une armée qui courait cette nuit sur sa piste. Il était sûr de ses jambes. Peu lui importait la longueur de la route, pourvu qu'il sortît libre du réseau humain dont il se sentait entouré. Il se lança à gauche, sur le Pont-Neuf, où personne ne paraissait. Les deux hommes qui gardaient le pont à droite se replièrent immédiatement, rejoignant M. Badoit et ses compagnons, lesquels s'arrêtèrent à l'angle du pont. Il y eut un cordon de formé, cinq hommes et pistolets qui se tâtaient les reins en grondant « Brutal, je te revaudrai ça, tu m'as appelé grenouille !» Il ajouta « Qui donc guette au quai de l'horloge ?»« Le père Moreau, » répondit Badoit. Pistolet mit ses deux mains en visière au-dessus de ses yeux. « Ah, le voilà couché là-bas, sur le trottoir, dit-il. Ah, si le marchef avait pris par là, nous le manquions. Qui garde la rive gauche ?»« Monsieur Chopin, monsieur Mégagne et le reste. »« Ah, nous le tenons !» s'écria le gamin, « à moins qu'il ne soit le diable. Mais quoi que ça, je voudrais bien savoir ce qu'il déménage sous son bras. Attention !» Au lieu des niches espacées, maintenant le long des deux trottoirs du Pont-Neuf, il y avait alors des pavillons loués à de petites industries. Le dernier pavillon, à droite, était occupé par un marchand de briquets phosphoriques du nom de Fumade. Dans le pavillon de gauche, on vendait des brosses, des onguents et du cirage. Il s'y trouvait en outre un homme de l'art pour tondre les chiens, couper les chats et aller en ville. Coyatier parvint jusqu'à 10 pas de ses pavillons sans être inquiété. Cela ne lui donnait point une confiance exagérée. Au contraire, il se disait « Ils sont en force puisqu'ils me laissent gagner. Va bien tout de même, pas moyen de reculer. S'ils ne sont pas plus de 3 en avant de moi, je fonce et je passe. » Sa main droite se crispait autour du manche de son couteau. Mais ils étaient plus que 3. Chopin, avec 2 acolytes, sortit brusquement de l'ombre du pavillon Fumade. Comme le marchef inclinait vers la gauche, M. Mégaigne et un autre, brandissant leurs cannes plombées, sautèrent sur la voie. En même temps, un groupe noir se montra dans l'axe de la rue Dauphine, marchant en bon ordre vers le pont. « Ah, bloqué !» dit Coatier, qui se rejeta en arrière. « J'ai manœuvré comme un dindon. Quoi, j'en avais l'idée. Ah, la petite demoiselle m'a rudement gêné. Pauvre cœur !» Il fit volte-face, non plus déjà pour chercher une issue, car il savait ce qu'il avait sur ses talons, mais comme la bête fauve tournait rôde avant de s'acculer. La lune était sous les nuées, mais ses rayons tamisés faisaient la nuit claire. Coyatier vit derrière lui un cordon immobile qui barrait toute l'étendue du pont en largeur. « Hein, bloqué, répéta-t-il, je ne l'ai pas volé, me voici pris entre 2 portes. » « Crébleu !» ajouta-t-il en jetant l'enfant sous son bras, sans précaution cette fois et comme un paquet. « Ah, ça m'a coûté cher de l'avoir embrassé, la petiote !» Les agents, échelonnés du côté de la rue Dauphine, marchaient sur lui avec lenteur. Les autres restaient immobiles. Il y avait encore un large espace entre les 2 troupes. Les choses se faisaient gravement, sans fanfaronnade ni bavardage, parce que, dans les 2 troupes, chacun savait bien que, selon toute apparence, il y aurait bientôt du sang sur le pavé. Le marchef avait une terrible renommée. Il était acculé, mais le sanglier aux abois découpe parfois 1/3 de meute avant de tomber. « Holà, mes vieux !» cria tout à coup Coyatier, qui acceptait la bataille. « Nous allons donc rire ensemble un petit peu. Comptez-vous bien, pendant que vous avez encore le temps, pour voir après combien il en manquera à l'appel. » Il y eut des veines qui eurent froid, c'est vrai. Le courage de ces gens-là n'est pas brillant comme celui des soldats. Ils n'ont ni l'ivresse de la poudre, ni l'enthousiasme de la gloire. Leur vaillance, et on en cite de prodigieux exemples, loin de les mettre sur un pavois, ne parvient pas même à les réhabiliter. Chaque acte de bravoure les avilit un peu plus. Ils restent les parias de notre civilisation qu'ils protègent d'en bas. On les déteste, on les méprise. L'écrivain qui dit un mot en leur faveur risque sa popularité comme s'il caressait des Prussiens ou des Cosaques. Et cependant, la plupart du temps, ils combattent l'ennemi de tous, le malfaiteur, et ils le combattent sans armes. Quand ils ont des armes, on leur dit d'avance « ne tuez pas ». Je vous l'affirme, sans le discrédit fatal qui pèse sur ces humbles champions de la sécurité générale, sans la rancune bizarre que le sentiment public en France garde contre ceux qui font notre vie abritée et notre sommeil tranquille, vous seriez forcé de les mettre parfois au rang des héros, J'ai dit « en France », car il est des pays qui se laissent garder sans mépriser leurs défenseurs. Mais nous autres, les Français, les spirituels par excellence, nous, le peuple exquis, charmant, incomparable, écoutez, cela est certain, nous avons un faible pour les voleurs. Dans nos romans, dans nos drames, dans nos opéras comiques, dès qu'un voleur paraît, il est intéressant. L'auteur sait où est le succès. Il ne s'inquiète guère de corriger les mœurs. Le principal est de plaire. Le voleur plaît, l'assassin ne déplaît pas. On leur donne du brio, de l'esprit, de la générosité, des bottes molles, des habits brodés, de la poésie, toutes les séductions et des chapeaux à large bord ornés d'une plume. On les fait ténors ou pour le moins baryton. La basse, peu agréable aux dames et pour le magistrat, être tout naturellement odieux et impropre à chatouiller les jolis rêves. Quant aux gendarmes, quelle horreur! Et ne prononcez pas même le nom des sergents de ville, c'est shocking. Aller contre cela, ce serait se briser contre le caractère même de toute une nation. Nous sommes avides de crimes et gourmands de coquins. Mais je m'étonne qu'il se trouve encore des gens assez dédaigneux de la faveur publique pour mettre au milieu d'un concert de huées leurs mains sacrilèges au collet des bandits, nos amours. D'où sortent-ils ces sacrifiés? Et quelle somme folle prodigue-t-on à leur dévouement qui n'a point de récompense morale possible? Le marchef avait pris son parti. En trois bonds, il gagna le trottoir occidental du Pont-Neuf, celui qui regarde l'Institut de travers. Il déposa son paquet sur le parapet et ramassa son vigoureux torse dans une attitude de défense. « Arrivez, dit-il, j'en veux manger une demi-douzaine avant de boire à la grand tasse, car vous ne m'aurez pas envie, vous savez bien ça, chien galeux, arrivez !»